d'Albert Memmi qui a mis les choses au point. Et très souvent, dans nos dialogues un peu clandestins avec des théologiens musulmans, pas forcément arabes, ils commencent par le reconnaître. Mais je reviens à ce que disait M. Gordon. Cet anti-judaïsme d'Ismaël vis-à-vis d'Israël est plus terrible que l'antisémitisme des chrétiens Ésaü vis-à-vis de Jacob, parce que l'antisémitisme d'Ésaü a accompagné la dispersion, alors que l'antisémitisme d'Ismaël accompagne le retour. Vous voyez la différence ? Une différence de nature. Okay. Bon, ça va jusque-là. Okay.
Il n'en reste pas moins. Si je prends la langue, est-ce que le judaïsme me fait penser que plus on est proche, plus les relations sont
difficiles ? Absolument, vous avez raison. Si je me prends la langue, moi je connais suffisamment d'arabe pour vous dire qu'à part l'hébreu, c'est la plus belle langue au monde. Et pas seulement l'arabe comme langue, la musique arabe. C'est ma musique maternelle, je ne sais pas comment on veut dire ça, enfin du pays natal. Mais il faut avoir vécu là-dedans pour le percevoir. Okay. Mais je suis persuadé qu'un juif allemand vous dirait ça de la musique allemande, okay, et de la langue allemande. Okay. Vous avez raison, il y a une proximité à tous les niveaux. Mais ça, on va s'en occuper demain un peu plus en détail. Il n'en reste pas moins que je parle de votre marque, okay. Aujourd'hui, il est bien évident que la présence juive, et quelles que soient les raisons historiques ou sociologiques, on dirait, conflit israélo-arabe donc, la présence juive est impossible en pays musulman, alors qu'elle est possible en pays chrétien. Est-ce que c'est clair? Vous allez me dire, il y a des circonstances contingentes de l'histoire, ça change quoi?
Si vous aimez, après le voyage de Sadat à Jérusalem, l'autre qui a marié le prince de Monaco de régner a écrit toute une grande page d'un journal du dimanche qui se terminait par la phrase suivante. Faites attention, maintenant, si ces deux-là commencent à disputer et que ça s'éteint à d'autres gens du monde arabe, un jour, ils font un grand michoui,
et nous
ne nous invitera pas et nous serons contraints de sentir de loin les relents du rôti.
J'ai lu cet article. Je l'ai lu. Oui. Alors, j'ai lu cet article, mais vous oubliez un mot que vous avez dit. Si on fait ce méchoui, ça on verra demain. Si. En attendant, c'était le père Bruegner ou Machu Kazé. En attendant, les choses au stade où elles sont, il faut mettre les choses au point. Il y a véritablement paix que lorsqu'on va les uns chez les autres. Alors, dans le cas de la paix avec l'Égypte, c'est un sens unique pour le moment. Et vous savez à quel point les catastrophes peuvent arriver quand les Israéliens sont là-bas. Je n'ai pas la peine de vous rappeler Rasburka et tout le reste. Les Égyptiens ne viennent pas. Mais le jour où ils viendront, on saura qu'il y a la paix. Alors, à ce moment-là, les chrétiens seront, comme vous dites. Bon, mais ce n'est pas encore là. Voilà, je voulais restituer ça, mais nous le verrons. Demain, la querelle entre Ishmaël et Isaac prendra fin. Elle a une issue positive. Demain, vous aurez une surprise. On va apprendre l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire Ishmaël tzaddik et ça existe. La notion d'Ishmaël tzaddik, c'est possible. C'est pas encore. On n'est pas encore dans le récit. Demain, on le verra. Alors que la querelle entre Jacob et Ésaü a une autre issue. C'est la disparition d'Ésaü. Ce qui n'est pas le cas pour Ishmaël. Mais nous verrons ça demain en détail. On revient à la question que vous avez posée. C'est-à-dire que Jacob et Ésaü sont frères ennemis, mais Ishmaël et Israël ne sont pas frères, ils sont cousins. Et en tout cas, le danger que représente Ishmaël pour Israël jusqu'au bout, jusqu'à l'issue miraculeuse de la réconciliation d'Ishmaël et d'Israël est prévue par la Torah, nous le verrons demain, est d'un autre ordre. Alors je voulais vous citer M. Gordin, parce que c'était un souvenir très précis. Je me rappellerai toute ma vie de cela quand il m'a dit « Tu sais pas lire. » Alors que lui n'avait jamais vu un arabe. Bon, alors je reviens. J'avais 20 ans, j'étais excusable. Okay. Alors, je reviens au texte, je voudrais terminer. Nous sommes à la fin du verset 8, qui est « Anashim achi manach ». On continue. « Halo kol haaretz lefanecha, dit Abraham à Lot. N'est-ce pas que toute la terre est devant toi ?» Hipparedna me'alai, sépare-toi de moi. En hébreu, ça se dit Red Mimeni, descends de moi. Iparedna Mehalai, sépare-toi du dessus de moi. Im Asmol Vehemina, si tu choisis la gauche, j'irai à droite. Vehim Ayamin Vehasmeila. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Rashi, tout de suite, verset 9. La question de Rashi, nous allons lire Rashi, est la suivante. Il semble que le texte accumule des indications inutiles. Il est évident que si on se sépare, si l'un va à gauche, l'autre va à droite, et si l'autre va à droite, l'autre va à gauche. Pourquoi cette indication? C'est clair? Alors, je donne le sens de Rashi, après on le lit dans Rashi. Ça veut dire, rassure-toi, je te quitterai pas. On se sépare, mais je te quitte pas. Si tu vas à gauche, j'irai à la droite de ta gauche, pas loin. Si tu vas à droite, j'irai à la gauche de ta droite, pas loin. Je reste comme un recours possible si tu es en danger. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Abraham va protéger Lot jusqu'au bout. La Kabbalah dit parce qu'il sait que la Neshama de Ruth est dans Lot. Vous voyez de quoi il s'agit? Donc. Alors, lisons Rashi. Bechol asher teshev, lo etrahek mimecha. Là où tu t'installeras, je ne m'éloignerai pas de toi. Ve'emodecha le magen ou laezer. Et je serai près de toi en protection et en aide. Mais sauf d'abord, et en fin de compte, Utsrachlo, Lot a eu besoin d'Abraham, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vaishma Abraham, Kinishba Achiv. Et Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier. Il se sépare, mais il continue à l'appeler son frère. Alors, comme je disais tout à l'heure, séparons la relation de fraternité Lot-Abraham de celle d'Ishmaël-Isaac, on verra demain. Mais ici, nous apprenons quelque chose d'important. Ça veut dire que Abraham et Lot vont se séparer, mais Abraham va protéger Lot de près de loin de près, parce qu'il sait qu'il y a une quantité de sainteté de cette famille qui s'est séparée, mais qu'il faut un jour sauver. C'est clair jusque-là? Ça veut dire que même si Abraham se sépare de Lot, il s'en sépare pas vraiment. Et je disais tout à l'heure, il arrivera certainement à un stade. Pendant toute ma vie, j'ai été unanimiste. Vous comprenez le sens de ce terme dans ce sujet. Tout juif est juif, quel que soit le... Mais je ressens de façon de plus en plus précise qu'un schisme se prépare. Entre quelle manière d'être juif, quelle autre manière d'être juif, l'histoire le dira. Mais on sent qu'il y a un tri qui va se faire, une séparation qui va se faire, étant donné les problèmes d'identité qui nous interpellent. Et ce n'est pas forcément en diaspora Israël. Hein. Je pense à beaucoup de choses à la fois. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Donc, Et nous avons ce thème ici, là, Lot et Abraham. Et c'est très consolant de voir que cette séparation, c'est en vue d'un rendez-vous à la fin des temps. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera de Lot? L'histoire va le dire, c'est Amon, c'est Moab, et en fin de compte, Ruth reviendra. Mais en attendant, il faut se séparer. Exactement comme dit le texte, parce que lorsqu'on voit Lot, on voit Abraham, on croit que... On a affaire à Abraham alors qu'on a affaire à l'autre, on croit qu'on a affaire à l'autre alors qu'on a affaire à Abraham. Mais c'est l'ambiguïté. Donc, ça s'est caché, mais je crois, longtemps, mais je crois que ce sont des thèmes d'identité inévitables. Peut-être j'aurais pas dû en parler aussi succinctement, mais je tenais à vous l'indiquer quand même une minute. Je voudrais citer cela, il me semble qu'une fois à un séminaire, je l'ai cité. Il y a très très longtemps, quand j'ai entendu M. Levinas parler de ce chapitre, il disait... Je ne prends pas l'expression à mon compte, mais je crois qu'elle est très éclairante. Et tout ce que Abraham fait, Lot le fait, mais en caricature. Nous le verrons d'ailleurs. Abraham est hospitalier, Lot est hospitalier, mais de quelle manière? Abraham est un berger, Lot est un berger, mais de quelle manière? Etc. Alors M. Levinas disait, si Abraham c'est le juif, Lot c'est le seul juif. Bon, je prendrai ça pas sur moi, mais je l'exprimerai peut-être comme ça. Les deux sont de capacité d'être frères. Mais il y a les faux frères. Il y a les frères et les faux frères. Bon, c'est clair ce que je dis là. Mais même faux, c'est des frères. Je ne sais pas comment dire ça. Alors c'est ce qui se passe dans ce texte, entre Abraham et Lot. Ça va jusque-là? On avance et on voit que Lot choisit Sodome et Gomorre. Et Abraham, le pays de Canaan. Alors, avant la Pesaka, nous allons lire le verset 14. Prenez le verset 14 du chapitre 13. Vachem Amar, et Dieu dit, et l'Abraham à Abraham, Ahare ipare lod meimo, après que l'autre se fut séparé de lui. Sana aerecha ore, lève tes yeux et vois, minamako macher atasham, de l'endroit où tu te trouves, tsafon avanek baraket mariama, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, j'ai pas traduit dans l'ordre, mais qui et kola aret sacher ataoe, toute la terre que tu vois, lecha et enena, c'est à toi que je la donnerai, que je la donne, mais uzarecha adolam et à ta postérité, à jamais. Comparé avec le verset 7 que nous avons lu tout à l'heure. Vaïra Hachem et Abraham, et Dieu s'est révélé à Abraham, Vaïomer, et il dit, les arecha, ta postérité, et ta retzazot, je donnerai cette terre. Le Midrash, que cite Rashi, nous allons lire Rashi, indique ceci, tant que l'hôte est avec Abraham, la prophétie est occultée à Abraham, il l'entend, mais faiblement. Verset 7, lorsque l'hôte s'est séparé d'Abraham, alors Abraham est à une écoute plus aisée, il entend plus clair. Verset 14. Vous y êtes ? Vous avez vu la différence ? Bon. Alors, Rashi intervient et dit ceci. Prenez Rashi sur le verset 14. « Ahare ipare lot » après que Lot se soit séparé d'Abraham. « Kolzman sharasha imo » tout le temps que le Racha était avec lui, que Lot était avec Abraham, « Haya adibur poresh mimenu » la révélation s'écartait d'Abraham. Ça veut dire la présence de Lot gênée la révélation de Dieu à Abraham. Ou je dirais à l'inverse, l'écoute d'Abraham de la révélation. Dieu parle à Abraham, mais Abraham n'arrive pas à écouter parce que l'autre est à côté de lui. Vous voyez les implications avec ce que j'ai dit précédemment ? Il faut que l'autre se sépare pour que la révélation se fasse claire. Alors, objection. Oulael, mais plus haut, au verset 7, chez Haya Lot Etzlo, que l'autre était avec lui, Vekatoub, il est écrit, verset 7, Vayera Hachem El Abraham, et Dieu s'est révélé à Abraham. Objection, okay. Mais au verset précédent, l'autre était avec Abraham. Et c'est pourtant écrit que Dieu s'est révélé à Abraham. On a appris, Abraham ne perçoit que plus faiblement. Mais là, Rashi, qui cite le Midrash, dit qu'il y avait une différence de nature. Quand l'autre était là, la révélation était impossible. Et quand l'autre est parti, la révélation éclate. Alors, la réponse de Rashi, Beota Shara, en ce temps-là, Kacher Haya. Il était Kacher, l'autre. Alors ça, c'est très important. C'est clair ? C'est-à-dire, au début du chemin, ben, l'autre, c'est comme Abraham. Kacher. Okay ? Quel kashrout, ça a demandé. Mais voilà qu'avec le temps, il se dévoile que l'autre n'est pas Kacher. Il a été au début. Et puis, ça a changé. Alors, il faut les séparer. Voilà, c'est clair jusque-là ? C'est très grave, ce qu'on lit là. Okay ? Il arrive que Lot apparaisse comme plus cachère qu'Abraham, et c'est pourtant Lot qu'il faut séparer d'Abraham pour que la révélation se passe. Bon, je ne veux pas en dire plus, mais...
On ne peut pas dire que c'est parce qu'Abraham a la responsabilité de Lot qu'il est préoccupé par Lot, et que par conséquent, il n'entend pas la prophétie.
Je dirais que ce que vous dites, c'est une implication, mais comme conséquence. C'est-à-dire que, bien que... la présence de Lot empêche qu'Abraham entende clairement cette prophétie, Abraham est quand même celui qui est vraiment cachère et il se préoccupe de Lot.
C'est qu'il est très cachère qu'il est préoccupé de Lot.
Attendez. Mais on ne voit pas que Lot soit préoccupé d'Abraham. Et donc ça montre bien qu'Abraham est plus Abraham que Lot. Ou alors c'est que je n'ai pas compris votre question. Répétez la question.
Non, je disais que Abraham, dans son rôle, dans sa fonction, est quand même un peu de sauver Lot,
qui n'a pas de père. Vous dites que c'est cela qui empêche Abraham, qui l'handicape.
C'est pas parce qu'Abraham n'est pas caché,
Non, Lot.
Parce qu'il est très soucieux de sa responsabilité, etc.
Que ça l'empêche. Je ne crois pas que ça l'empêcherait d'entendre la parole de Dieu. Ce que dit Rashi est un peu différent. Au contraire, le fait qu'Abraham soit vertueux vis-à-vis de Lot devrait faciliter à travers sa piété. Je suis en train d'essayer d'analyser les implications de votre question. Vous voulez dire, le fait qu'Abraham soit préoccupé de Lot l'empêche d'être disponible. C'est pas ce que dit Rashi exactement. Il dit c'est que l'identité de Lot risque de contaminer l'environnement d'Abraham, et alors c'est, Abraham est handicapé. C'est un peu différent. En tout cas, les commentaires de Rachid que nous avons cités montrent que même lorsque Lot se sépara d'Abraham, Abraham reste préoccupé de Lot, dans tous les cas. Mais là, la révélation est possible.
Dans les deux révélations, Dieu dit à Abraham, c'est à ta postérité.
Oui.
Lot n'est pas la postérité.
Non. Mais si Lot était resté cachère, il s'intègre dans la postérité d'Abraham. Lui et sa postérité. Imaginez, c'est la même famille. Hein, et le neveu de l'autre. Mais c'est l'autre qui est le neveu d'Abraham. Okay. Mais c'est la même identité. On voit une lignée se détacher. Le raisonnement des bergers et de Lot que j'ai cité dans le Midrash à propos d'autres questions le montre. Puisque ça appartient à Abraham, ça appartient à Lot, disent les bergers de Lot. Et là, je crois que il y a le fait qu'une manière qui aurait d'être la famille de Terach, qui aurait pu être Abraham, s'est autonomisée en se séparant d'Abraham. Si elle ne s'était pas autonomisée en se séparant d'Abraham, elle fait partie de la descendance d'Abraham. C'est évident. Ken.
Dans la traduction anglaise de Rachid, là, il dit que les bergers disent cette terre a été donnée à Abraham, et étant donné qu'il n'a pas de fils comme héritier, alors l'autre sera son héritier.
Très bien. Mais même sans aller jusque-là, les sources du Midrash disent ce qui appartient à Abraham appartient à Lot. J'espère avoir suffisamment réintégré le fait que c'est la même identité au point de départ. Le texte, surtout dans le chapitre 11 et 12, l'a bien montré, en répétant cette indication d'état civil. Lot est le petit-fils de Terach. Abraham est le fils de Terach. C'est plus comme même identité familiale. Mais ça va s'autonomiser lorsque Lot quittera Abraham. Attendez, c'est clair jusque-là, sur ce point? Et c'est pourquoi, lorsque les Midrashim parleront de Ruth, la Moabite de la descendance de Lot, ils en parlent comme une fille de la famille qui rentre chez elle. Est-ce que c'est clair?
On se parle alors, comme le disent certains rabbins,
de
la considérer comme la première convertie
qui soit. Oui, mais ce n'est pas n'importe laquelle. Elle n'est pas la première d'ailleurs, il y en a eu avant. Ce n'est pas n'importe laquelle. Elle ramène avec elle ce qui était le plus près à l'origine. Et c'est parce que c'était le plus près à l'origine, vous l'avez indiqué tout à l'heure, qu'à travers l'histoire, c'est le plus loin. C'est pourquoi sa revenue est une revenue messianique. Je pense que c'est suffisamment clair. Ken, qu'est-ce que tu veux dire rapidement?
D'abord, l'âge de Lot et d'Abraham, est-ce qu'ils étaient à peu près du même âge?
Non. Non, Lot était plus jeune.
Lot était plus jeune. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'explication de ce qui se passe?
Pas forcément. Je voudrais aller à un plus essentiel, disons. Du même profil d'identité, il y a des harmoniques de profil différents qui se détachent. Nous allons voir tout à l'heure la scène où les filles de Lot, pour assurer l'avenir de l'humanité, ont un enfant de leur père. Bien, c'est dans la caricature absolue, dans l'impureté absolue, une tentative messianique pour sauver l'humanité. C'est du messianisme de la Sitahra, comme on dit en araméen, de l'autre côté du monde, du côté ténébreux. Bien. Vous voyez, Lot va finir par devenir l'ombre portée d'Abraham, mais ce n'est pas l'ombre de n'importe qui. Alors dans cette ombre portée, il y a une trace de lumière qu'il faut sauver, c'est Ruth. Par exemple, en court-circuitant les thèmes, mais c'est le même problème, quand le Talmud dira « Israël, al-frappi shechata Israël ». Je traduis en termes modernes, un juif, même le pire des mécréants, c'est un juif. Israël, même pécheur, c'est Israël. Ben, c'est le même thème. Lot, même impur, c'est de la famille d'Abraham. Et ce qu'il y a de sainteté occultée finira par être sauvé, c'est Ruth. Habituons-nous à cette... c'est la manière des kabbalistes d'expliquer. Ça, vous ne trouvez pas en clair, même pas dans le Midrash. Mais je pense que c'est très important. Ce sentiment que nous avons tous, un juif, quel que soit l'éloignement qu'il a eu, est d'Israël, alors qu'un non-juif, quelle que soit la proximité qu'il a avec la Bible, n'est pas d'Israël. Ça intrigue l'intelligence. Okay. C'est pas du racisme, c'est plus profond que ça. Il y a une manière d'être homme qui, quelle que soit sa dégradation, reste ce qu'elle est, et qui, par conséquent, lorsqu'elle revient, c'est une grande fête. C'est Ruth revenant en Israël. Et d'où sort Ruth? Lisez le livre de Ruth, vous verrez. Il y avait deux belles filles, Orpa tourne la nuque, Orpa ça veut dire la nuque d'ailleurs, Orlev, et Ruth revient. Et elle nous donne une leçon de Tshuva, quelque chose d'énorme. Et alors, les rabbins ont vu dans Ruth une fille d'Abraham qui revient, et non pas une étrangère qui se convertit. Vous comprenez ce que je veux dire d'après la question que vous avez posée. Alors je pense qu'en schématisant, et comme on a vu aussi tout à l'heure avec Haran, les disciples du patriarche à Haran, qu'il en est ainsi dans toute conversion au judaïsme. C'est quelque chose de cet ordre qui se passe. Voilà, c'est clair. Et c'est impossible à diagnostiquer, okay, où était l'origine, peu importe. Mais c'est le même mouvement qui se passe. C'est une très jolie question que vous posez. En statistique, c'est le cas. En statistique, c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou plus difficile. En statistique, il y a beaucoup plus de femmes qui reviennent au judaïsme que d'hommes. Qui reviennent, je dis. Oui, de la même manière que nous avons une règle, nous n'avons pas de convertis qui viennent d'Ishmaël. Il y a des cas particuliers, il y en a quelques-uns. La plupart des convertis viennent d'Ésaü. Je ne sais pas si vous connaissez. Rov Gerim, Baïme Esav, l'homme Ishmael. Ishmael, ce n'est pas nécessaire. Ishmael peut être tzaddik, s'il fait tshuva, et nous verrons demain de quoi il s'agit. Ishmael peut être tzaddik et rester Ishmael. Il n'est pas nécessaire qu'il devienne Israël. Vous voyez la différence de nature.
Ken. La deuxième question, c'était l'importance, là, qui me frappe en passant, de la vision dans la définition de la terre que Dieu donne à Abraham.
Oui. Pour répondre à cela, je voudrais d'abord dire, vous voyez la différence, la révélation donnée au verset 7, elle est approximative. Cette terre, je la donne à ta descendance. Au verset 14, ça commence à devenir beaucoup plus explicite. Et il y a des points cardinaux, déjà. Et puis, au fur et à mesure des textes, on verra que nous avons des frontières sûres et reconnues par la Bible. Et, ça fait partie d'une des principes de la halakha, le fait de voir fait acquérir. Vous avez étudié le début de Baba Batra, peut-être Baba Messia, slicha. J'ai vu avant toi. Hein. Et Moïse aussi verra toute la terre dans laquelle il ne peut pas pénétrer. T'en vas être Hanan. Alors, ta question est très importante. Il faut pas seulement Abraham a fait du tourisme en pays de Canaan, alors Venasora Negba, mais il faut aussi qu'il voit de quelle terre il s'agit. Bien. Écoutez, on va prendre quelques minutes de Afsaka et on va avancer dans la suite. Très rapidement. Ken.
Le fait, les deux sœurs, il y a Ruth et Orpa.
Elles sont pas sœurs, hein? Attention. Elles sont les deux belles-filles de Naomi.
Les deux belles-filles de
Naomi.
Bon, donc, quelques temps après, les deux cousins se rencontrent. C'est-à-dire David et Goliath sont cousins.
Oui.
D'après le texte, David et Goliath sont cousins. Et le fait que David détruit Goliath, est-ce que c'est un refus d'identité de la deuxième fille de...
C'est impliqué, c'est-à-dire que la partie de l'identité Moab qui s'érige en rivalité continue à être rivale et ne revient pas avec Ruth est ennemie irréductible comme la Bam par rapport à Jacob. Bien, alors nous retrouvons dans 10 minutes. Nous reprenons donc. Bien, alors écoutez, nous allons prendre pour le temps qui nous reste au chapitre 14. le verset qui indique un peu ce à quoi j'ai fait allusion, que lorsque Abraham est intervenu dans la guerre entre les rois pour sauver Lot, se produit un événement qui déjà de façon lointaine va indiquer la nécessité de l'exil pour la descendance d'Abraham. Bon, jusqu'à présent, nous avons donc vu qu'il y avait une analogie d'identité entre Abraham et Lot et les raisons de cette séparation. Le résultat de cette séparation est que l'histoire des Hébreux passera par Abraham, mais que, quelque part, de manière réservée, il y a une des souches de cette famille d'Abraham qui donnera lieu aux deux peuplades de Moab et de Ammon à partir de Lot, et nous savons qu'il y a une issue messianique pour l'avenir. Bon, je m'excuse, je voulais apporter la Bible pour vous lire quand même. Vous avez une Bible en hébreu ? Ah, très bien. Donc. Alors, vous allez prendre au chapitre 14, à partir du verset 21. Alors, on apprend dans ce chapitre qu'Abraham est intervenu dans la coalition dont faisait partie le roi de Sodome, où Lot s'était installé. Donc il s'agit du roi de Sodome. C'est plus tard qu'il y aura la décision de la condamnation de la civilisation de Sodome, et vous connaissez l'épisode où la famille de Lot finalement quitte Sodome. L'atmosphère est celle d'une catastrophe. Les personnages qui vivent cette catastrophe sont censés penser la fin du monde et qu'ils sont les seuls rescapés de l'humanité, d'où cette scène de la stratégie des filles de Lot pour assurer la perpétuation de l'humanité et la naissance de ces deux peuples, Ammon et Moab, qui, encore une fois, vont être apparemment à la périphérie de l'histoire que raconte la Bible, mais en réalité, la descendance de Ammon et de Moab sera très interférée avec l'histoire biblique du peuple des Hébreux, dans le sens d'une rivalité qui, au fond, n'est pas encore achevée. Ruth est revenue, mais cette histoire n'est pas achevée. Alors, nous revenons au chapitre 14. « Vayomer Melech Sodom El Abraham » et le roi de Sodome dit à Abraham, un verset très important, « Teni ha-nefesh ve-rechush kachlach » De nouveau, les deux termes de « nefesh » et de « rechush » dont j'ai parlé tout à l'heure. Voici que Abraham avait la possibilité, il est encore Abraham, okay, avait la possibilité d'intégrer à Israël des personnes et des valeurs qui étaient à sa disposition au moment de sa victoire contre les ennemis de Sodome. Qu'est-ce que le roi de Sodome dit à Abraham ? Donne-moi les personnes et le butin, les valeurs, garde-les. La réponse d'Abraham est que pas seulement les personnes, mais le butin aussi, tu les gardes. Oui, voyez le drame qui nous est raconté là. Verset 22. Vayomer Abraham el Melech Sodom. Et Abraham dit au roi de Sodome, Arimoti Yadi el Hashem, je lève ma main vers Hashem, c'est-à-dire je jure, El Elyon, le Dieu suprême, Kone Shamaim Vaaret, possesseur des cieux et de la terre. Pourquoi cette formule? Parce que précédemment, nous avons la rencontre entre Abraham et un personnage mystérieux qui s'appelle Melchisedec et qui est défini comme étant Kohen Le'el Elyon, le prêtre du Dieu suprême. Il y a une grande différence que je vous signale en passant. Vous le prenez un peu plus haut, au verset 18 du chapitre 14. Il y a une grande différence dont Melchisedec parle de Dieu comme être suprême, El Elyon, et dont Abraham parle de Dieu comme être suprême. Il y a une différence de conception du monothéisme lui-même. Où Melchisedec, Melech Shalem, et Melchisedec, roi de Shalem, c'est l'endroit qui deviendra Yerushalayim, Jérusalem, Otsi Lechem Bayayin, a approché, a fait sortir le pain et le vin. Vous voyez déjà la cérémonie de bénédiction. Vehu Kohen Le'el Elyon, et il était le Kohen, le prêtre du Dieu suprême. Il y avait donc là des traces de la sainteté antérieure. Et selon le Midrash, Malchisedec, c'est Shem lui-même. Ça va jusque-là. Okay. Ça veut dire l'identité originelle de la souche d'où vient Ever, fils descendant de Shem, d'où vient Abraham. Et il y a là un reste du monothéisme authentique depuis le premier homme qui est là. Et Malchisedec va donner le relais à Abraham. Mais le nom de Hachem n'est pas...